Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour à la CIFAC 88.3 et on va parler d'une petite chronique sur le mois de l'histoire des Noirs.
Aujourd'hui, on va parler du mois de l'histoire des Noirs. Comme plein d'entre nous, on le sait, on est en février généralement. Je ne sais pas depuis quelle année ça a été établi, mais désormais, février représente désormais le mois de l'histoire des Noirs. Et moi, ce que je voulais présenter aujourd'hui, c'est de savoir au moins qu'est-ce qui se passe au Québec pendant le mois de l'histoire des Noirs. Mais avant ça, je voulais quand même parler en intro de ça. Mais juste, voilà. Le mois de l'histoire des Noirs est célébré chaque année en février au Canada. C'est une période dédiée à honorer l'héritage et les contributions des personnes noires et de leur communauté à l'histoire et à la culture canadienne. En 2025, il y a un thème chaque année, apparemment, l'héritage et le leadership
des personnes noires.
Ouais. Donc, ce qui reviendrait à dire, ce serait de célébrer l'histoire canadienne et d'inspirer les générations futures. Ce thème met en lumière la diversité des Canadiens noirs et l'importance de leur leadership et de leur héritage pour les générations futures. Mais il faut savoir qu'il y a des événements et des activités qui sont organisés partout au pays pour sensibiliser le public et célébrer les réalisations des personnes noires dans divers domaines. C'est aussi une occasion d'apprendre davantage sur les défis auxquels les communautés noires continuent de faire face et sur les moyens de promouvoir l'égalité et la justice. Et on a par exemple à Montréal où on a des concerts et des projections dans plusieurs arrondissements comme La Salle et Plateau. On a le festival Fondu au Noir du 4 au 8 février. Ça propose des projections de films et des conférences sur des contributions des communautés de Noirs. Des conférences universitaires, il y a l'Université de Montréal et McGill qui organisent des conférences sur l'histoire des Noirs et la contribution des personnes noires. On a à Ottawa la célébration de l'héritage et du leadership noir pour honorer des leaders noirs dans des divers domaines, y compris la santé mentale et les toxicomanies. Le calendrier d'événements, il y en a tellement, comme je viens de le citer. Vous pouvez toutefois y aller, peut-être en apprendre un peu plus, par exemple dans les conférences. Je sais que moi, en tant que minorité visible, je ne sais pas tout. Fait, c'est sûr que je sais qu'on apprend tous les jours, mais ça nous fera un plus d'apprendre. Fait, je partage autour de la table. Est-ce que vous avez déjà participé à une conférence pendant le mois de février ou ça sera la première fois?
En tout cas, vis-à-vis de ça, moi j'ai l'habitude de passer aux conférences de l'université. Après, c'est pas les mêmes thématiques. Je suis un gros dada de science, c'est pas trop pareil. Mais pour se référer un peu à de l'apprentissage, comme tu disais, il y a eu plusieurs publications qui ont été mises en place, notamment dans le site officiel de Canada.ca. Sur les biographies des personnages en fort état d'esprit de leadership et qui représentaient bien la communauté noire. On a également, du coup, dans ce type de choses, le docteur Dominique Gaspard, qui était, du coup, un des grands pionniers dans l'histoire commune et qui a mis en lumière la diversité religieuse et linguistique et ethnoculturelle de personnes d'ascendants africains au début du 20e siècle au Canada. On a aussi également des sportifs comme Harry Winston-Jerome, qui a permis aussi au Canada de se porter sur plusieurs thématiques d'athlétique ou de demi-fond poussé. D'autres personnalités un peu plus sérieuses comme Dr. George Fields ou Dan Fields, ou même aussi des femmes aussi, comme Rosemary Sadlier et Yvonne Squeer, qui ont été mis au ton du jour et à l'avancée de chacun. Mais vis-à-vis de ça, aussi, le mois de l'histoire des Noirs, c'est aussi avant tout aussi un moyen de revoir et de réapprendre aussi une culture qui a été un peu mise en arrière-plan sur plusieurs points, mais aussi de renouer aussi également pour les personnes qui sont noires américaines ou afro-américaines, de pouvoir renouer aussi avec l'origine et aussi avec le centre culturel qu'ils représentent et qui est aussi représenté par leurs ancêtres et inversement. En tout cas, il y a, comme vous le dites, on peut se référer aussi au niveau de l'affiche de l'Histoire des Noirs de 2025 qui est aussi également sur le site de canada.ca. Et sur ce, je vais prendre une petite pause parce que j'ai mon micro qui zigzague. Mais attendez.
Mais sinon, si jamais, il y a l'organisme Black History qui souligne le mois de l'Histoire des Noirs avec une série d'activités tout au long du mois de février. Je suis pas sûr qu'on les avait eu en entrevue l'année passée, hiver passé. Black History, ça s'est implanté à Sherbrooke en 2020. Puis il prévoit des festivités gratuites accessible à tous pour une quatrième année d'affilée. En soi, il y a aussi, ils vont avoir des conférences, entre autres, au café Baobab, là, je ne sais pas si vous connaissez, un petit café sur la rue Dunant, super cool.
Connu pour ses micros ouverts.
Oui, c'est ça.
À répétition, oui, je connais très bien.
C'est ça, puis ils vont avoir un documentaire Maison du cinéma. Donc, c'est ça, je vous invite à aller voir ça chez l'organisme Black History avec tous les événements qui sont organisés tout au long du mois de février.
Bah, vis-à-vis de ça même, je pense que c'est plutôt cool que vous ayez un truc comme ça au Canada. Nous, on n'en a pas trop en France, des mois du Noir, mois de l'Orient, ça aurait été plutôt cool un truc comme ça, tu vois. Mais genre, il n'y a pas du tout ça en France, ça montre vraiment, c'est plutôt cool. Vraiment, je pense que rendez-vous au Café Baobab, hein, du coup.
Mais oui, puis c'est vraiment un cool café en plus.
Bah, vis-à-vis de ça, en plus, quand je me réfère aussi à plusieurs sources qui ont été présentées sur Internet, il y a vraiment un engagement et une effervescence du peuple canadien sur ce type d'événement. Ma question serait pourquoi, en fait, d'où vous vient cette envie de mettre en lumière ces différentes cultures qui ne sont pas forcément les vôtres d'origine?
Le Canada, c'est entre autres bâti sur le multiculturalisme de Trudeau père, et donc une volonté de vouloir vraiment que les autres cultures fassent partie intégrante de la culture canadienne. Pas juste que ça soit comme les autres cultures, ça devient une grande culture. Okay. Et que justement, il y a des possibilités que chacun puisse faire rayonner sa culture au sein du Canada. Il y a des succès mitigés, il y a des gens qui ne sont pas full d'accord. Mais bon, regardez, c'est quand même ça.
C'est la volonté de bon côté. Ouais, même, je pense que c'est avec ce genre de choses que on pousse un peu plus aussi sa propre culture.
Oui, c'est
J'en apprends plus de l'autre que de moi sur l'être.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Donc, par exemple, au Québec, le Québec a plus une volonté de comme, il y a la culture québécoise et il y a les autres cultures qui peuvent aussi s'enrichir au sein de la culture québécoise.
Il y a la culture québécoise et canadienne, c'est ça?
Pas juste canadienne. T'sais, en soi, c'est que avec la langue française, il y a une volonté de la défendre et tout ça. Donc, il y a la culture québécoise. Je pense qu'ils appellent ça l'interculturalisme, je me suis bien. Mm-hmm. Fait qu'il y a une volonté de garder intacte la culture québécoise et que les autres aient la place de faire rayonner la leur.
C'est s'ouvrir aux autres, c'est plutôt bien.
Oui, mais ce qui est bien, c'est que vraiment, je rejoins Ryan. Parce qu'en faisant mes recherches, j'étais vraiment surprise de voir que, waouh, c'est comme, il y a toutes ces choses qui sont organisées. Mais même au-delà de ça, qu'au Québec, il y a d'abord la culture québécoise. Mais on voit qu'il y a quand même une volonté de mettre en avant ce fameux mois de noir. Et c'est agréable à voir. J'ai envie de dire que peu importe les personnes qui viennent, tout le temps je vois sur la page de Trudeau, ils rencontrent toutefois des communautés différentes et ça donne envie d'immigrer. Ça donne envie de dire, oh wow, le Canada, c'est un peu comme une safe place où on vient et on sait que, ok, quand je vais venir, c'est fait que je serai pas vue de même. Ah, mais toi, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est plutôt, j'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe chez toi et peut-être pas vivre comme toi tu vis, mais au moins s'intéresser à ta culture. Ouais.
Puis on a Roxane Labrèche qui est la personne qui va être présente pour notre entrevue d'après, qui est directrice de la Galerie d'art d'Antoine Sirois, qui a assisté à notre chronique, qui voulait dire un petit mot. Vas-y, Rexha.
Oui, absolument. Je m'excuse, je jump in dans la conversation parce que c'est super intéressant. Mais je te reprends un petit peu, tu sais, notre identité québécoise, je pense qu'elle est multiple, justement. Ouais. Puis je pense qu'elle existe grâce à ces communautés-là, puis à les diasporas les enfants de migrants qui arrivent ici, les migrants, je pense que notre identité québécoise, justement, elle est vaste. Puis, on a besoin, en fait, de...
Ah, bien sûr.
Oui, on a absolument besoin de toutes ces cultures-là pour se retrouver, nous, finalement, en soi, puis d'avoir cette identité multiple. Fait que je pense pas en soi que c'est comme un but de trouver une identité. Je pense qu'on en a vraiment plusieurs au Québec, puis c'est ça qui est merveilleux. Mm-hmm. Tu le disais, par exemple, en France.
Bah, moi, c'est pas trop le cas en France, c'est spécifique. Moi, je dirais, si tu veux vraiment un exemple comme ça, moi, ça a été 4 mois. Quand j'ai fait une alternance l'été dernier au Japon de 4 mois, tu vois. Et ouais, j'avais plus ce rythme-là. Mais après, le Japon, c'est un peu spécifique. Dans le sens où il y a cette envie de pluriculturisme, mais dans un cadre plus privé. C'est-à-dire qu'avant tout, t'es un citoyen japonais, tu te réfères à ça. Tu vas par exemple, quand tu prends les transports, tu suis les mêmes codes et la même discipline que les autres suivent dans le transport. Par exemple, quand tu travailles en entreprise là-bas, tu te réfères aussi à ça. Tu vas pas imposer ton truc, tu vois. Mais par contre, sur le côté, tu as le droit de rayonner avec ta propre culture, mais dans un cadre spécifique qui n'incombe pas.
Oui, c'est
alors qu'en France, c'est plus compliqué dans le sens où il y a cette envie, en fait, citoyenne, pas pour tout le monde, mais citoyenne, de partager sa culture, mais ça vire souvent à de la polémique en contrepartie, sur médiatiquement et autres. Donc c'est ça qui pose problème. C'est par exemple en France, moi j'ai mes collègues, tu vois, genre mon groupe de potes, il y a un blanc, il y a un arabe, tu vois, genre on est partout, tu vois, moi c'est moi l'arabe en question en plus, et on n'a pas de problème en soi, tu vois, genre il y a pas de problème d'ethnie ou autre. Mais par contre, vraisemblablement quand t'essayes vraiment de mettre des projets en place. Moi, j'ai un de mes collègues qui, avec Elias, qu'on a fait un projet, ça s'appelle La main dans le cœur. C'était genre un truc caritatif pour un peu tout le monde. Bah, on se fait un peu bloqué dans le sens où on considère que, vu que c'est trop... Comment je peux dire ça ? Trop pas... Je vais pas dire culturel français, mais trop... moi, la raison qui avait été expliquée, c'était que potentiellement, c'était trop religieux. Du coup, tu pouvais pas participer à ce genre de projet, donc ouais, c'est compliqué. Je dirais qu'en France, on voudrait avoir ça, mais que parallèlement à ça, t'as beaucoup de polémiques qui s'est structurée autour de ces genres de sujets. Donc ça devient un peu plus compliqué. Mais les citoyens français se voient comme ça, tu vois. Et moi, ma philosophie, c'est qu'on est des citoyens du monde, tu vois, actuellement, qu'on le veuille ou non. J'aime pas le froid, je suis au Canada, frérot. À force, tu t'habitues, tu vois. Genre, c'est... Tant que t'as un langage universel, ça s'appelle le respect. Tant que tu respectes et que tu cherches à t'imposer et à poser les bonnes questions, forcément, tu peux que t'enrichir d'une autre culture. C'est que ça.
Ouais, mais en fait, pour terminer, je veux vraiment enchérir sur ce que Roxane a dit. Mais moi, quand je suis arrivée, je pense, mon premier job ici au Canada, c'était au café de l'université. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait plein de plats, qu'à un moment, je me disais, mais finalement, c'est quoi la gastronomie québécoise? Parce que, à part la poutine, je voyais poulet général Tao. Je sais que ça, c'était asiatique, par exemple. J'ai vu récemment qu'ils ont mis du poulet à ça qui vient d'Afrique. Et moi, je suis là comme... Ah, ouais,
ça,
ouais,
c'est fou, ça.
Parce que, comme... excusez, mais généralement, quand tu viens d'ailleurs, on dit « Ah, oh, repars chez toi !» et tout. Et là, même dans les plats, j'avais vraiment l'impression que... On veut que vous venez, on veut pas seulement pour que vous puissiez venir pour qu'on se serve de vous, mais on aime ça que vous veniez et on aime même ce que vous mangez. Fait que regardez, on le sert chez nous on appelle ça cantine, par exemple, dans nos cantines à l'université, à l'école, et franchement, honnêtement, je pense que le jour où j'ai vu ça, ça m'a fait du bien.
Bah ouais, c'est vrai. Hein. Bah, après, j'ai l'impression, c'est vrai que moi, pour une perspective un peu, on va dire, francophone, j'ai remarqué, les Québécois, ils ont vraiment ressenti sur genre, le mal du pays. Ils savent ce concept. Tu vois, genre, je sais pas comment expliquer.
Le mal du pays chez les Québécois?
Non, genre inversement, quand nous, on arrive. Genre, Genre, j'ai l'impression qu'au Québec, ils ont cette sensibilité. Ils savent que, genre, en général, quand tu viens dans un nouveau pays, t'as un peu ce mal du pays. On fait en sorte que ça soit
c'est
accessible.
C'est peut-être se baser sur le concept de la... Ben, le concept. Sur l'identité canadienne-française, le Canadien-français qui se sent mal dans un pays anglais, peut-être. Là.
Bah, tu vois, moi, quand Candy, par exemple, qui retrouve des plats chez elle, tu vois, genre dans une cantine... Moi, je sais que ça n'arrivait jamais sur Paris. J'ai jamais vu ça sur Paris.
Ouais, ouais.
Mais pourtant...
On est plus jeunes aussi.
Ça montre, tu vois, genre, ça montre que quand même, il y a une envie de ne pas dépayser totalement la personne et de faire en sorte qu'elle montre qu'il y a une acceptation de sa propre culture personnelle. Et même avec ce genre d'événement comme le mois des hommes noirs, genre, ça représente ça, tu vois. Je pense que même toi, en tant que conservatrice, tu as une certaine vision de l'art qui, pour toi, est avant tout pluridisciplinaire et pluriculturelle. Donc... t'as, je pense, une certaine habitude, et quand t'as des gens qui viennent, qui ont d'autres origines, d'autres visions, t'as pas trop envie de les brusquer et d'imposer un style spécifique canadien. Pour le public canadien, au contraire, tu veux qu'ils
Je crois qu'on
montrent.
Va garder cette belle question-là pour après la pause. On va vraiment puis on va apprendre à connaître Roxane un petit peu après la pause. Publicitaire.
Ah, j'ai spoilé. Non, je rigole. C'était mon attention, non, je rigole.